Chapitre 4. L'abbé Rivord occupait au presbytère de Sainte-Cécile une grande chambre lambrissée, un peu sombre dès que le soleil levant ne l'atteignait plus. De vieux meubles l'ornaient, de beaux vieux meubles en noyer poli à la fois par les ans et par les énergiques frottés de Mademoiselle Célestine, la sœur du curé. Dans ce cadre austère, l'abbé recevait tous les 15 jours les hommes et les jeunes gens qui s'occupaient,
sur la paroisse,
d'œuvres de charité ou d'œuvres sociales. On causait, on échangeait des vues, on demandait conseil. L'abbé Rivord était le trait d'union nécessaire entre ses bonnes volontés un peu diverses et ses opinions qui, se rencontrant sur le terrain de la foi, variaient entre elles quant aux moyens d'apostolat, quant aux formes différentes de la charité. L'intelligence lucide et peu aisément influençable du jeune prêtre mettait vite au point l'idée fausse, enlevait à l'utopie ses voiles chatoyants, devinait le faux zèle qui ne cherche dans les œuvres qu'un profit personnel de considération ou d'argent. Cette dernière catégorie n'osait plus affronter l'abbé Rivord. Il s'était fait ainsi, sans parler des mauvaises dévotes dont il était la terreur, des ennemis féroces qui essayaient de le salir, vainement, car la belle droiture du jeune vicaire n'avait d'égal que sa prudence et son habile clairvoyance pour reconnaître les pièges tendus. À ses réunions de quinzaine, il se sentait à l'aise au milieu de ces hommes, élite de la paroisse, qui l'aimait et le soutenait dans la rude tâche dont presque tout le poids retombait sur lui, le curé, de par son âge et ses infirmités, n'exerçant plus qu'un ministère restreint. Henri de Marge venait souvent, apportant avec sa grâce courtoise de gentilhomme la ferme décision de son esprit si droit, la flamme ardente d'un cœur très vibrant, la vive clarté d'une intelligence supérieure. Bruno, lui, était toujours là, Bruno, le disciple, aimé d'une tendresse de prédilection et pour qui, chaque jour, l'abbé Rivord demandait à Dieu l'entrée de cette voie royale du sacerdoce, sur laquelle lui-même cheminait avec une austère allégresse. En ce soir d'été, les fenêtres étaient ouvertes et quelques-uns des hôtes du jeune prêtre se groupaient près des embrasures profondes pour profiter d'une relative fraîcheur. Dans le crépuscule, la masse sombre de Sainte-Cécile se profilait, à droite, tel un vaisseau immobile. À ses pieds s'étendait le jardin que voilait l'ombre claire du soir. La voix monotone de Mademoiselle Célestine, causant avec son frère sous la tonnelle, se faisait seule entendre. Mais tous les parfums concentrés à cette chaude journée dans la corolle des fleurs s'en échappaient maintenant, montaient jusqu'aux fenêtres, se répandaient dans la grande chambre où 10 hommes causaient sans éclat et conspiraient pour sauver des âmes. Bruno venait de tourner un commutateur. Il descendit la lampe placée au milieu de la pièce, au-dessus d'une grande table ronde, recouverte d'un tapis de velours vert. Tous se rapprochèrent. Quelques-uns s'assirent, la plupart restèrent debout, tandis que l'abbé lisait le compte rendu des œuvres diverses. Il y eut des questions posées, des explications demandées. La lumière éclairait intensément le brun visage si vivant de l'abbé Rivord, le beau profil énergique d'Henri de Marge, assis près de lui. Bruno, debout derrière eux, se tenait dans la pénombre. Il jetait comme de coutume son mot dans l'entretien et, sur une question d'Henri, parla de la récente désillusion due à Pierre Milon. Sa voix avait des intonations émues. À un moment, il avança la tête et la lumière éclaira fugitivement son visage sérieux, ses yeux qui exprimaient toute la tristesse dont ce naufrage d'une âme pénétrait son cœur de croyant. À 9 heures, les hôtes de l'abbé s'éloignèrent. Il ne resta près de lui que M. de Marge et Bruno, qui s'attardaient à causer. Henri racontait que les demoiselles Jarlier étaient venues cet après-midi voir sa femme et que ses relations plaisaient peu à Hélène. « Je te concède que la cadette semble une petite folle, » dit Bruno, « mais je crois l'aînée sérieuse et très intelligente. »« Intelligente, oui. Sérieuse, pas dans le sens que nous attribuons à ce mot, je le crains. Pas dans le sens chrétien. Elle n'a pas de croyance. L'exemple, les discrets conseils de ta femme pourraient lui faire du bien. Je ne crois pas. Pourquoi ? » Henri fit quelques pas, s'accouda un instant à la balustrade forgée de la fenêtre, en plongeant son regard dans la nuit, qu'éclairait mélancoliquement la lueur diffuse d'un croissant de lune voilé. Puis il se détourna et Bruno rencontra son regard loyal et ferme. « Mon cher, je n'ai jamais aimé juger les gens sur une impression première, surtout quand celle-ci se présente plutôt mauvaise. J'attendrai, pour te dire mon avis sur nos voisins, et particulièrement sur cette jeune fille, de les mieux connaître. » L'abbé approuva. « C'est très juste. Ma tante n'en est pas non plus enthousiaste du reste. Je ne connais pas ces personnes, mais d'après ce que ta mère m'en dit, Bruno, je ne crois pas que ce soit de bonnes relations pour Claire. » Bruno dit avec une légère impatience « Claire est sérieuse. Elle aime l'amusement, la nouveauté. Peut-être se laisserait-elle influencer par les habitudes d'indépendance, les façons libres de ces jeunes filles. J'ai fortifié ma tante dans sa résolution de n'entretenir que des rapports très espacés avec la Hermelière. » Bruno ne répliqua rien. Il se pencha pour réunir quelques papiers épars sur la table, les plia et les posa sur le bureau de son cousin. « Viendras-tu demain à la promenade du patronage ?» demanda l'abbé tout en rangeant prestement les chaises en désordre. « Je le pense, je l'ai promis à ses enfants. Ils t'aiment tant, les pauvres gamins, mais tu ne les tiens pas assez fermes, laisse-moi te le redire une fois de plus, mon cher ami. Ils abusent de ta bonté, il faut te faire craindre un peu. » Bruno secoua la tête en souriant. « Oh, la crainte, non. Ce procédé de gouvernement n'est pas dans mon caractère. Tu dois t'y mettre. Un homme, ne sachant pas s'imposer à qui se trouve sous sa dépendance, est désarmé dans la vie. Pour ceux qui ont reçu un mandat de direction, la seule bonté sans la fermeté ne servira qu'à faire d'eux des dupes et des malheureux. » Il posa ses mains sur les épaules de Bruno et enveloppa d'un long regard cette physionomie fine et sérieuse sur laquelle les yeux pensifs répandaient une grâce attirante. « Allons, bonsoir, mon ami, retourne à ton travail d'écrivain. » Un coup fut frappé à la porte. L'abbé alla ouvrir et se trouva en face du large visage couperosé de Mademoiselle Célestine. « On vient vous demander de chez les Vinaillers, monsieur l'abbé. Le vieux monsieur est très mal et ses filles l'ont tout doucement décidé à se confesser. Ah, Dieu soit loué! Dites que j'y vais, mademoiselle. » Monsieur de Marge demanda « Veux-tu que je te conduise en voiture ?»« Non, merci, mon cher ami, c'est si près. » Les trois hommes descendirent rapidement l'escalier aux marches de pierre usée. Il faisait frais et sombre dans le vestibule très large, très haut de voûte, dont les épais murs de pierre contemporains de Sainte-Cécile ne laissaient jamais passer la chaleur. L'abbé et les jeunes gens prirent leur chapeau à un porte-manteau, puis Bruno ouvrit le ventail qui grinça longuement. Au dehors, la voiture de M. de Marge attendait. Le prêtre et Bruno prirent congé du jeune châtelain et s'éloignèrent d'un pas allongé. Ils traversèrent la place. La vague clarté répandue dans la nuit enveloppait de mystère la façade de Sainte-Cécile. Tous les détails de sculpture, toutes les délicatesses d'ornementation s'estompaient en touches légères sous le voile de cette nuit claire. Les ténèbres se réfugiaient dans la profondeur du porche et, en face, sous les arcades de la maison du docteur Hart. Des lumières se montraient encore à de nombreuses fenêtres, des ombres se penchaient, demeuraient accoudées. Sur le pas des portes, quelques servantes prenaient l'air, se réunissaient, deux ou trois, pour bavarder. Un éclat de rire traversait l'espace de temps à autre. Des groupes de promeneurs cherchant un peu d'air rafraîchi passaient en flânant, là de toute la chaleur de cette journée. Les deux cousins marchaient vite, sans parler. Dans une rue en pente, bordée par les plus vieilles maisons de la petite ville, ils s'arrêtèrent devant une porte ouverte qui laissait voir la profondeur éclairée d'un vestibule. Une femme, sur le seuil, semblait guetter. Elle eut un geste de soulagement et s'exclama « Ah, il est temps, monsieur l'abbé » « A-t-il encore sa connaissance ?»« Oui, mais il peut être enlevé d'un moment à l'autre. » L'abbé serra la main de son cousin et entra à la suite de la femme qui referma la porte derrière eux. Par une rue transversale, Bruno se dirigea vers sa demeure toute proche. Maintenant, il marchait d'un pas plus lent. Dans la nuit douce, parfumée de l'innombrable senteur des floraisons invisibles, il songeait à son rêve d'apostolat, à l'appel divin vers une destinée d'exception. Il se figurait son cousin penché sur ce mourant, pardonnant au nom du Christ les fautes qui souillaient, comme une boue fétide, l'âme du vieux pécheur. Il s'imaginait toutes les âmes pour lesquelles le jeune prêtre, en 5 années de sacerdoce seulement, avait été l'instrument vaillant et fidèle de la miséricorde infinie. Un enthousiasme mystique le soulevait à cette pensée. Il se redit la parole mélancolique du maître « La vigne est grande et il y a peu d'ouvriers ». Il se souvint de toutes les négations, de tous les blasphèmes entendus au cours de ses visites charitables, de tous les vices qui s'étalaient ou qui se cachaient, de toutes les détresses connues ou insoupçonnées, de toute l'immense misère humaine. Un frisson de pitié fervente courut en lui. Il dit intérieurement « Mon Seigneur et mon Dieu, si vous avez besoin de moi pour les âmes, me voici ». Dans le jardin, la famille Ferrière prenait le frais, assise devant les fenêtres du petit salon. Les lampes allumées à l'intérieur éclairaient le profil pensif de Madame Ferrière, la physionomie mobile de Claire, le visage maigre de Monsieur Ferrière et, plus loin, celui de son fils aîné, presque semblable, un peu plus osseux encore peut-être. Ils causaient sans animation, par petites phrases détachées. Claire, d'un doigt distrait, caressait le chien de chasse de Louis. M. Ferrière tirait quelques bouffées espacées d'un cigare. Bruno, en apparaissant au seuil du salon, fit observer avec un sourire « On voit que la chaleur a été anormale aujourd'hui. Pour que Claire soit silencieuse ?» La jeune fille se leva avec vivacité et vint prendre le bras de son frère. « Je pensais à des choses très sérieuses, monsieur. M'en croyez-vous incapable ?» Il caressa les cheveux châtains qui s'ébouriffaient en répliquant gaiement « Mais pas du tout, je te crois très raisonnable à certains jours. »« Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, » dit Madame Ferrière. « Elle me tourmente pour entrer en relation suivie avec les jarliers. Cette petite folle d'Ismène lui plaît. »« Elle est si amusante !»« Je ne t'ai pas élevée à rechercher l'amusement dans la vie au détriment du bien de ton âme. » Claire leva vers Bruno son visage, où se dessinait une petite moue. « Penses-tu aussi, toi, que la fréquentation de ces demoiselles serait un mal pour moi ? Je ne puis me prononcer, je ne les connais pas assez. Tu as causé un certain temps, l'autre jour, avec mademoiselle Floriane. » M. Ferrière fit observer « Cet aparté montre un peu trop de désinvolture à l'égard des convenances, étant donné surtout qu'elle voyait Bruno seulement pour la seconde fois. Je ne me soucierai pas que tu l'imites sous ce rapport, car à la base de ton éducation, nous avons mis la réserve qui est la parure d'une vraie jeune fille. » Claire eut un rire léger, tout en retirant sa main de dessous le bras de son frère pour chasser un petit papillon de nuit qui lui frôlait le visage. « Mais ils ont causé de choses très sérieuses, papa, même de religion, paraît-il. » M. Ferrière sourit en regardant son fils avec un mélange d'amusement et de complaisance. « Le voilà bien, notre apôtre. Il faut qu'il exerce son ministère, même dans un salon, près d'une jolie femme. » « Je n'ai pas commencé. La conversation est venue sur ce sujet à propos de mon livre. » J'ai cru comprendre que cette jeune fille souffrait, presque inconsciemment peut-être, du vide de son âme. Ce n'est pas impossible, elle est loin d'être folasse comme sa sœur. Je la crois même très réfléchie, très pondérée. Évidemment, en tant que faculté intellectuelle, elle n'est pas la première venue. Mais le reste, le fond moral qui se cache sous cette séduisante apparence, demeure encore inconnu pour moi. Puis il y a cette éducation très libre. Il existe des âmes honnêtes et droites qui résistent à toutes les influences défavorables. » Sur ces mots, Bruno descendit les 2 marches qui séparaient le jardin du seuil du salon et s'approcha de sa mère. « Je vais vous dire bonsoir, chère maman, car j'ai à travailler. » Elle leva sur lui son regard qui souriait doucement. « J'ai lu ce que tu as écrit déjà. C'est très bien, très bien. Tu mets là toute ton âme et ton cœur et ta foi. » « C'est ainsi qu'il faut toujours faire, mon enfant. » Il se pencha et lui prit la main. « Maman, je n'écrirai jamais un mot que vous puissiez désapprouver. Vous êtes ma seconde conscience, vous le serez toujours. » Il se courba plus profondément. Sur le front qui s'offrait à elle, Madame Ferrière mit un long baiser. Les yeux de la mère et du fils se rencontrèrent, graves et tendres. Comme chaque soir, Madame Ferrière vit qu'aucune ombre inquiétante ne ternissait le regard de son enfant.